bonjour. Le magazine du week-end, c'est chaque samedi et chaque dimanche de l'été, mais vous le savez maintenant. 1h10 pour revenir sur l'actualité nationale et internationale de la semaine avec nos invités jusqu'à 13h50. Comment relancer le fret ferroviaire? Emmanuel Macron a promis cette semaine de s'engager sur ce qui est surtout une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. On nous promet donc un redéveloppement massif du transport de marchandises par le train, ce qui reviendrait à peu près à réveiller un mort, diront les sceptiques. La ligne qui relie Perpignan au marché de Rungis, par exemple, n'a toujours pas repris du service. Nous en débattrons avec nos invités aux alentours de 13h15. Pour commencer, l'Europe se fera dans les crises, prédisait son père fondateur Jean Monnet, et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Pour l'instant, aucune solution n'a été actée à Bruxelles et le sommet européen qui devait se terminer hier soir est prolongé de quelques heures encore. Le plan de relance en discussion doit toujours s'élever à 750 milliards d'euros, mais entre les 27, tout le monde n'est pas d'accord sur la part que doivent représenter subventions et prêts. La crise du coronavirus sera-t-elle l'occasion de relancer l'Union européenne comme l'espèrent les plus europhiles ou la diviser encore? On en débat avec nos trois invités qui sont pour deux d'entre eux avec nous en studio. Bonjour Clémentine Forissier.
Bonjour.
Rédactrice en chef du journal Contexte. Bonjour Sylvain Kahn.
Bonjour.
Historien, géographe et professeur à Sciences Po. Et nous sommes en ligne avec Geoffroy Didier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député européen, Les Républicains, et je vous remercie tous les trois d'être avec nous dans le magazine du week-end. Sylvain Kahn, ça vous étonne que les discussions à Bruxelles aient si peu avancé à l'heure qu'il est? Ça vous agace? Ça vous réjouit?
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elles ont si peu avancé? En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles se poursuivent. Donc tant qu'elles se poursuivent, c'est qu'elles ne sont pas arrêtées, c'est un truisme ce que je dis, et tant qu'elles ne se sont pas arrêtées, ça veut dire que les discussions continuent. Disons, ce que je veux dire par là, en répondant d'une façon qui se veut un peu humoristique, je ne sais pas si j'arrive à être vraiment drôle un dimanche midi, parce que je suis comme tout le monde, évidemment.
Surtout sur le sommet européen.
Surtout sur le sommet européen, mais c'est bien d'essayer d'avoir un peu d'humour sur ce sujet qui, en général, est toujours pris très très sérieusement dans les médias français. Ce que je veux dire, c'est que ça ne me paraît pas, surtout si on regarde les choses dans la durée, c'est-à-dire depuis le début de la construction européenne, à savoir les années 50, ça ne me paraît pas du tout exceptionnel qu'un Conseil européen de chefs d'État et de gouvernement, sachant que ce genre de sommet européen, comme on les appelle aussi, il y en a quand même maintenant 4 par an depuis 30 ou 40 ans, dure plus de 24 heures ou plus de 48 heures. Surtout lorsqu'il s'agit de se mettre d'accord sur ce qu'on peut qualifier, pour trouver ça bien ou trouver ça critiquable, une avancée historique. L'avancée historique étant que, pour la première fois dans l'histoire de la construction européenne, les dirigeants des États membres de l'UE se sont mis d'accord sur le principe de s'endetter en commun, c'est-à-dire, pour dire les choses très rapidement et de manière un peu schématique, d'émettre des bons du Trésor européen, de s'endetter ensemble, d'accord, non pas de partager les dettes déjà existantes, mais de décider de s'endetter ensemble comme un État peut s'endetter. Donc, c'est un peu la manifestation du début d'un prolégomène d'État européen. Parce que dans le monde, en général...
Prolégomène.
Oui. En général, dans le monde, ceux qui émettent de la dette publique, c'est des États. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas illogique que sur une affaire aussi importante ou sur un saut qualitatif aussi important, et je ne porte pas de jugement de valeur, on peut trouver ça bien, le critiquer ou au contraire l'approuver. Mais en tous les cas, le fait qu'un saut qualitatif aussi important soit en train d'être fait, ça ne me paraît pas choquant ou anormal ou exceptionnel qu'il faille du temps et des discussions pour se mettre d'accord sur les modalités de mise en œuvre de ce saut qualitatif très important.
Voilà. Voire peut-être, on peut aller plus loin, peut-être Geoffroy Didier, est-ce qu'on peut déduire de ces hésitations, désaccords et compromis que l'Union européenne est bien un régime délibératif et pluraliste? Chacun a encore le droit de donner son avis.
Oui, vous avez raison. Et surtout, la longueur des discussions est le reflet d'une réalité, c'est que la solidarité européenne est un combat permanent. C'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui reste conditionné au destin budgétaire de chaque État. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est l'hésitation de ces pays dits frugaux, c'est-à-dire les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Danemark, qui ont une gestion très vertueuse des dépenses publiques et qui ne veulent pas être victimes de la manière dont certains autres États géreraient leurs propres dépenses publiques. Il faut savoir que ces quatre pays, en plus de l'Allemagne qui, elle, s'est résolue à être le moteur de ce plan de relance avec la France. Ces quatre pays dits frugaux ont une dépense publique qui se situe entre 40 et 50% du PIB, alors que la France en est à 56%. Ce sont des pays où la démocratie est très vivante, très mature, et donc ce sont des pays qui jouissent d'une bonne gestion à la fois économique et financière, mais aussi politique. Et donc nous comprenons aussi le fait qu'après un premier plan d'urgence, parce que nous en sommes à notre deuxième plan de l'année, après un premier plan d'urgence de 540 milliards d'euros, le fait que ce plan de relance, lui, de 750 milliards d'euros, ces montants sont vertigineux, ne soit pas si facile à accoucher. Le montant est très important. Comme cela a été dit il y a quelques instants, nous sommes aussi face à un phénomène inédit de mutualisation des dettes. Ça veut dire que concrètement, pour la première fois, c'est la Commission qui va émettre des obligations sur les marchés au nom de l'Union européenne.
Et comme surtout, n'importe quel État.
Oui, tout à fait. Et puis surtout, l'Europe épuise ses cartouches, brûle ses vaisseaux, parce que cet argent va être dépensé entre 2021 et 2024, c'est-à-dire sur une période très courte, 3 ans, mais va mettre 30 ans à être remboursé. Car en fait, il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas d'argent caché. Ces 750 milliards d'euros, vos auditeurs doivent bien le comprendre, n'existent pas aujourd'hui. Ils vont être intégralement empruntés. Ils devront donc être intégralement remboursés.
Alors, pour rester d'abord sur le débat politique que ça occasionne, Clémentine Forestier, c'est vrai qu'on ne peut pas se passer de demander leur avis à ces États que l'on appelle frugaux d'ici, mais la construction européenne est faite de telle sorte qu'ils ont aussi leur mot à dire.
Oui, et c'est assez logique. Est-ce qu'on est dans un moment que certains voulaient appeler moment hamiltonien, c'est-à-dire où effectivement on avance vers une mutualisation des dettes et vers un resserrement finalement des États européens dans leur manière de coopérer économiquement, ou est-ce que on est dans une situation où en fait c'est une fois pour une crise qu'on n'a jamais vécue, pour laquelle on peut pas tellement imputer un État ou un autre d'avoir été mauvais gestionnaire, parce qu'en fait tous les États sont touchés à divers degrés pour des raisons.
Et surtout là, c'est relativement inexpliqué, qui les a touchés, exactement, et pas une mauvaise gestion, voilà, des ressources publiques.
C'est là-dessus aussi que porte notamment ce sommet et les discussions qui traînent en longueur. C'est pas tellement étonnant. Je rejoins pas mal ce qu'a dit Sylvain Kahn. De toute façon, les discussions qui portent sur le budget au niveau européen sont toujours très longues. Il y a toujours besoin de plusieurs sommets pour y parvenir. Il y a toujours un espèce de moment un peu vertigineux où on ne sait pas si on va claquer la porte ou pas. Bon, voilà, on n'échappe pas à cette dramaturgie, ça ne me paraît pas étonnant. Sur le saut qualitatif, ce que je voudrais un tout petit peu nuancer, c'est que certes, c'est ça n'a jamais été fait et jusqu'à il y a peu de temps, personne n'aurait pu parier que les Allemands prennent ce virage. Il y a deux choses. D'une part, les Allemands et d'autres disent attention, c'est une fois. C'est maintenant, c'est parce que c'est la crise du coronavirus et que c'est une crise complètement à part. Il n'est pas question de reproduire ce schéma-là. Et par ailleurs, et c'est là où il faudra regarder l'issue de ce sommet, c'est comment cet argent va-t-il être à un moment remboursé ? Parce que pour le moment, par exemple, il n'est pas question à ce stade, et les Allemands sont les premiers à dire non sur ce qu'on appelle les ressources propres. En gros, c'est l'idée de trouver un moyen de collecter en commun de l'argent qu'on va réinjecter dans le budget pour éviter aux États d'avoir à accroître leur contribution nationale. En gros, comment est-ce qu'on va rembourser cet argent? Est-ce qu'on va le faire en commun et tout? Et là, pour le coup, pour l'instant, on n'a pas du tout avancé. Et les discussions à ce sommet montrent qu'il n'est pas tellement question pour le moment de trouver des solutions là-dessus.
En tout cas, s'il y a une chose qui n'a plus l'air de faire débat, Sylvain Kahn, c'est que pour faire face à la crise sanitaire et relancer les économies, un plan européen serait donc nécessairement plus efficace qu'une série de plans nationaux. Mais pourquoi ce serait une évidence?
Alors, en fait, on pourrait dire que c'est une évidence parce que c'est déjà comme ça depuis 4 mois. C'est-à-dire que ce que je vais dire là, je sais, c'est un peu schématique, ça peut être perçu comme un peu inexact ou un peu provocateur, mais néanmoins, je ne suis pas économiste, mais je crois que ça peut se soutenir comme hypothèse. Les plans de relance nationaux dont vous parlez, Julie Gacon, ils n'existeraient pas sans la BCE. Ils n'existeraient pas sans la BCE, et on pourrait même dire sans ce que fait la BCE depuis 2008, et singulièrement sans ce que fait la BCE depuis 2012 sous Mario Draghi. C'est-à-dire qu'on est quand même aujourd'hui, me semble-t-il, et je ne suis pas économiste encore une fois, dans une situation. Les économies européennes sont dans une situation où, alors qu'il y a de très grandes disparités au sein de ce territoire européen, entre des pays, ça a été rappelé tout à l'heure, dont certains, on va dire, ont un déficit budgétaire bien moins important que d'autres. D'accord ? On se trouve dans une situation où, schématiquement, l'ensemble des Européens et l'ensemble des pays européens sont protégés par cette monnaie unique qui s'appelle l'euro. On se trouve aujourd'hui avec une Banque Centrale Européenne qui fait tourner la planche à billets. Elle le fait de manière massive depuis le début du mois de mars. En réalité, elle le fait de manière massive depuis 2012, sous Mario Draghi. Et de façon à laquelle un certain nombre d'économistes, j'ai essayé de lire les contributions, ne s'attendaient pas du tout, pour l'instant, ça ne provoque pas d'inflation, ça ne fait pas dérailler l'économie, on ne voit pas encore les effets négatifs. Et s'agissant de l'endettement, on a, comme vous le savez, des taux d'intérêt négatifs qui font que, finalement, les marchés financiers, comme on dit, c'est-à-dire voilà, les gens qui ont des assurances vie, les institutions financières, les fonds de pension, etc., je pourrais presque dire vous et moi, ne voient pas en quoi ça pose un problème. Alors qu'il y a encore 30 ans ou 40 ans, ce genre de choses, évidemment, aurait posé un énorme problème. Donc, les plans de relance nationaux, où on dépense de l'argent qu'on n'a pas sans compter, ne sont possibles que parce que la BCE a dit « quoi qu'il arrive, nous rachèterons sur le marché secondaire les obligations d'État des États membres ». Et donc, dans un certain sens, ça devient complètement logique à partir de là, si vous voulez, d'imaginer d'émettre de la dette publique européenne. Je veux dire, c'est le pas suivant. Vous voyez ce que je veux dire ? D'une certaine manière, il y a une espèce de cohérence et de logique. Et en plus, j'ajouterais que si on regarde les signaux faibles qui sont émis depuis un an, moi, je pense par exemple à une motion qui a été sortie par l'équivalent du MEDEF en Allemagne, il y a un an, qui disait déjà, écoutez, là, il serait peut-être temps de commencer à mutualiser le budget. Donc voilà, je veux dire... Oui.
Mutualiser le budget, parce qu'on n'en est pas là encore. Et Geoffroy Didier, je voulais vous poser cette question à propos du budget. Est-ce que contracter une dette commune, ça engage nécessairement à avoir une politique économique commune, une politique industrielle commune, un budget commun ? Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce principe-là ?
D'abord, je trouve que vous avez posé une question très juste, celle de l'opportunité même d'un plan de relance européen. Et j'estime que lorsqu'on engage... l'avenir des générations avec 750 milliards d'euros de dépenses, on doit se poser ce type de questions. Moi, je crois à la nécessité d'un projet européen, mais j'avance quand même avec une boussole, un principe, une méthode, c'est celui de la subsidiarité. C'est-à-dire que concrètement, il faut faire appel à l'Europe, mais lorsque son action est jugée plus efficace que celle de chaque État. Et pour faire face à la crise du Covid-19 et relancer nos économies, parce qu'il s'agit bien d'un plan de relance, la question est de savoir si un plan de relance européen est forcément plus efficace qu'une série de plans nationaux. Moi, j'estime que cette réflexion sur l'application du principe de subsidiarité en matière de politique économique, malheureusement, elle n'existe pas aujourd'hui dans le débat public. Et elle est court-circuitée par une coexistence de deux idéologies dominantes et selon moi tout aussi mortifères l'une que l'autre, qui se renvoient dos à dos. C'est d'une part le fédéralisme, qui renonce totalement à l'indépendance des États, je ne suis pas pour, et d'autre part le souverainisme, qui rejetterait tout projet commun. Et je pense que dans l'intérêt de chacun, surtout lorsqu'on engage de tels montants, il faut qu'à l'avenir un tel débat puisse avoir lieu afin de permettre une mise en œuvre optimale du principe de subsidiarité en matière politique, mais aussi en matière économique. Sur la politique industrielle, là, c'est une mise en commun, ce n'est pas une mutualisation dans mon esprit, mais c'est une mise en commun des forces de chacun afin de créer une autonomie stratégique à l'échelle industrielle. Et nous avons vu que le fait d'en manquer crée un cruel défaut à l'Union européenne par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis. Donc le prochain enjeu, c'est celui-ci, mais c'est d'ailleurs l'une des priorités de la Commission, que la Commission s'est elle-même fixée avant même la crise du Covid.
Clémentine Forestier.
Moi, je ne sais pas si on est dans un débat qui oppose souverainisme ou fédéralisme. Je crois qu'on est plutôt dans un débat où c'est le pragmatisme, en fait. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette discussion-là aujourd'hui ? Pourquoi les Allemands ont changé d'avis par rapport à ce qu'ils auraient pu encore dire il y a ne serait-ce que 6 mois ? C'est simplement parce que l'industrie automobile allemande a expliqué à la chancelière que si jamais l'Italie venait à faire faillite ou à être dans une situation économique dramatique, c'était des profits énormes pour l'industrie allemande automobile qui allait manquer et que ça mettrait gravement en danger l'industrie allemande.
Donc c'est un changement de cap qui n'est pas désintéressé.
Mais non, mais parce qu'on est dans un... Après, on pouvait se poser la question, faut-il faire ou non le marché intérieur européen? Faut-il faire ou non en sorte que nos économies dépendent les unes des autres? Mais comme on l'expliquait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un marché intérieur. Si à un endroit, il se passe quelque chose sur une chaîne de production, ça va avoir un impact dans un autre pays. On se tient, en fait. On peut être pour, on peut être contre, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Donc, si on se tient, ça veut dire qu'il faut être d'une certaine façon solidaire. Mais solidaire, c'est évidemment une solidarité qui est intéressée. On est aujourd'hui quand même une agrégation de 27 pays qui ont des projets individuels. Mais simplement, on fait partie d'un espace commun et donc on doit être solidaire. Juste une dernière chose, ce débat qui est évoqué là, faut-il ou non un plan de relance européen, il va avoir lieu. Parce qu'en fait, ce plan de relance, s'il est adopté, il va falloir à un moment ou à un autre qu'il soit adopté par les pays. Donc il va avoir lieu politiquement au niveau national.
C'est-à-dire donc les parlements, c'est le rôle du parlement de toute façon. Enfin, le système institutionnel, il va devoir s'adapter, Sylvain Kahn, ou est-ce qu'il va juste devoir fonctionner comme d'habitude? Enfin, qu'est-ce que ça change d'un point de vue institutionnel, ce plan de relance qui devrait être discuté par les parlements ensuite nationaux?
Il faut qu'il soit adopté par l'ensemble des parlements, y compris le Parlement européen. Donc ça, là, vous mettez le doigt sur une des particularité du fonctionnement de la vie politique ou du système politique de cette entité territoriale, cet État. Je sais que l'appeler État, ça fait débat, mais Jean-Marc Ferry parle de méta-État.
Vous parlez de l'Union européenne comme d'un État.
Ben oui. Oui, alors après, on peut dire un État incomplet, un État qui a ses caractéristiques et qui n'est pas... Enfin voilà, mais en tout cas, c'est sûr que si on le compare à un État-nation souverain, tel que ceux qui siègent à l'ONU, on va dire, ben non, c'est pas vraiment un État. Mais si on le compare, je sais pas, moi, aux États-Unis d'Amérique, à un État fédéral, ou même à l'Allemagne, il a des tas de caractéristiques qui font de lui un État. Ce qui est un peu compliqué avec l'Union européenne, c'est que, en général, dans un État fédéral, on mutualise ce qu'on appelle les compétences régaliennes. La défense, la police, en tout cas à un certain niveau. Tandis que dans l'Union européenne, on a commencé par mutualiser des compétences qui ne sont pas des compétences régaliennes. Effectivement, on en parlait, le marché intérieur, donc la régulation de la concurrence, la politique agricole, voilà. Mais en fait, il se trouve que depuis 70 ans maintenant, chaque décennie qui passe, on mutualise un peu plus de compétences et finalement, dans un certain désordre, au sens où il n'y a pas vraiment une logique en réalité, il n'y a pas vraiment une logique institutionnelle. On mutualise des compétences au fur et à mesure des besoins. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, le principe de subsidiarité qui a été évoqué tout à l'heure est bien mis en œuvre, mais pas d'une manière académique en fonction d'un plan théorique. On le met en œuvre en fonction des besoins. Et là, on le voit bien, tout d'un coup, il y a les économies européennes qui se retrouvent en grande difficulté, y compris en raison de ce que Clémentine Forestier disait, à savoir qu'il y a une interdépendance telle qu'aucun État membre, Madame Merkel, qui vient de prendre la présidence de l'Union européenne, la présidence tournante semestrielle, l'a dit dans un grand entretien qu'elle a donné à plusieurs journaux européens il y a 15 jours, elle a dit... de toute façon, si l'Europe se casse la figure ou arrête d'avancer, l'Allemagne va se casser la figure avec. Voilà. Et l'Europe, c'est ça. Depuis 1950, c'est à la fois un intérêt croisé, un intérêt mutualisé, et maintenant une interdépendance énorme, et en même temps une conviction politique et idéologique. Donc, pour en revenir à votre question, ça veut dire que du coup, on a une espèce de démocratie hybride. Vous avez à la fois un niveau européen avec un Parlement, élu suffrage universel, une Chambre des États, et puis en même temps, il y a toujours... comme aux États-Unis avec les États fédérés ou en Allemagne avec les États fédérés, les Länder, les États membres qui sont à la fois des États souverains, des États-nations, et en même temps des États fédérés. Donc c'est tout à fait logique que les parlements nationaux s'expriment et votent et décident. Mais du coup, c'est ça qui rend les choses un peu compliquées parfois.
Et une Commission européenne dont le rôle est vraiment renforcé. Enfin, ce plan, quel nouveau rôle, quelle nouvelle place donne-t-il à la Commission européenne, Geoffroy Didier, la mutualisation de la dette, le fait de pouvoir créer des taxes?
Oui, d'abord, première remarque, ce qui a été dit est quand même signifiant, parce qu'en fait, on est censé parler d'un plan de relance des économies, mais en réalité, c'est avant tout un plan de sauvetage de la zone euro. Et si Angela Merkel s'est résolue à vouloir ce plan, c'est bien parce qu'il a pour principale vertu d'aider à stabiliser la zone euro et d'éviter un décrochage de l'Italie. Mais c'est pas tout à fait un plan de relance, c'est avant tout un plan de sauvetage. Sur la partie démocratique, je précise quand même que d'après les textes, ce plan de relance ne sera pas validé ou approuvé par le Parlement européen, mais, pour être précis, examiné, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Il n'y aura pas de
vote. Et d'ailleurs,
il
ne fera pas l'objet... Voilà, il y aura une résolution la semaine prochaine, je l'espère, si les discussions aboutissaient, et il ne fera pas l'objet d'une validation ad hoc, il fera l'objet d'une validation dans l'ensemble du cadre financier pluriannuel 2021-2027. Et surtout, moi ce qui m'inquiète, c'est que rien ne garantit un vrai contrôle démocratique sur la répartition et sur l'utilisation de montants aussi importants que 750 milliards d'euros. Et vous parliez effectivement du rôle de la Commission. La Commission, comme c'est elle qui emprunte, c'est elle qui s'autorise aujourd'hui à dicter aux États membres comment devront se constituer les ressources propres. Et parmi ces ressources propres, il y a des mécanismes de compensation qui d'ailleurs n'ont toujours pas fait qui n'ont toujours pas fait l'objet d'un accord politique. Je pense à la taxe GAFA. Et je pense que pour l'instant, nous n'y sommes pas, vu l'opposition nette de Donald Trump. Je pense à ce qu'on appelle la taxe carbone, qui pour moi est une bonne chose parce que cela permettra d'affirmer les règles d'un marché unique et de faire respecter nos normes environnementales.
Donc des taxes qui vont permettre d'avancer sur des projets communs, des enjeux communs. Mais le fait que la Commission européenne ait un pouvoir fiscal, peut-être que ça va l'obliger à rendre des comptes. C'est peut-être pas si mal pour la démocratie européenne.
Oui, mais il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme démocratique qui exige de la Commission qu'elle rende des comptes. Pour l'instant, elle ne fait que suggérer des ressources propres. Et parmi ces ressources propres, moi j'alerte quand même nos auditeurs sur une ressource propre que je trouve curieuse et pour l'instant elliptique, c'est celle qui consiste à taxer des grandes entreprises, qui ne seraient pas pour cette fois des entreprises européennes ou chinoises, mais bien des entreprises européennes. Et si jamais les peuples découvraient qu'en réalité, alors par exemple qu'Emmanuel Macron nous dit que cette crise ne fera pas l'objet de nouveaux impôts, mais qu'en réalité on passait par l'Union européenne et par la Commission pour constituer de nouvelles ressources propres qui deviendraient de nouveaux impôts sur les personnes morales et peut-être demain sur les personnes physiques, ça poserait un problème.
Clémentine Forissier.
Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, cette histoire de ressources propres, la fiscalité au niveau européen, c'est toujours quelque chose qui nécessite l'unanimité. Et aujourd'hui, alors après, on est en train de parler, et à Bruxelles, le sommet dure, mais cette histoire de ressources propres, on n'y est pas du tout. La taxe carbone aux frontières, qui est un projet qui est ressorti là depuis les dernières élections, c'est absolument pas du tout abouti. Il n'y a pas vraiment de taxe sur la table actuellement, et techniquement, c'est assez compliqué à mettre en place. De toute façon, ça peut pas être fait de façon uniforme. La taxe GAFA dont on vient de parler, c'est un débat qui dure depuis plusieurs années et on sait absolument pas à quel moment ça pourrait être mis en place. Et la taxe sur ce qu'on appelle les droits à polluer, en fait, le marché du carbone. Aujourd'hui, les Allemands veulent absolument pas en entendre parler, ni de près, ni de loin, pour financer ce plan de relance. Donc, là-dessus, le Parlement européen a dit d'ailleurs, il y a une lettre qui a été signée par les présidents de groupe du Parlement, que ça ferait partie des sujets sur lesquels le Parlement voulait absolument une avancée, et y compris dans le camp en fait d'Angela Merkel, le PPE dont fait partie Geoffroy Didier. Mais on voit absolument pas pour l'instant ce sujet-là avancer. Donc on peut avoir cette discussion, mais à ce stade elle est presque un peu prématurée.
Sylvain Kahn.
C'est-à-dire que moi encore une fois ce qui me paraît très intéressant avec ce qui est en train de se passer, c'est deux choses. La première, c'est qu'il me semble, là aussi c'est une hypothèse parce que tout ça est très frais, que ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la réponse politique qui est apportée par les chefs d'État et de gouvernement et par les dirigeants de la... Enfin, je ne devrais pas dire... Oui, par le collège des commissaires européens, donc l'équivalent un peu du gouvernement de l'Union européenne, entre guillemets, ainsi que par le Parlement européen qui est en débat. C'est-à-dire qu'ils sont en train, me semble-t-il, de relayer à leur façon, sur le plan politique, le fait qu'il y a une demande sociale des Européens, qui certes fait l'objet de débats, tout le monde, tous les Européens ne sont pas forcément d'accord là-dessus, mais dans la crise du Covid, il y avait déjà des signaux faibles qu'on voyait bien dans les eurobaromètres, c'est-à-dire cette espèce de très grandes enquêtes réalisées tous les 3 mois sur des panels très importants de 15 000, 20 000 Européens qui sont sondés. On sentait bien que sur différents sujets, en particulier sur le sujet de la cohésion des Européens face aux menaces russes ou chinoises, ou face au fait que les États-Unis ne sont plus un allié pour les Européens, on voyait bien qu'il y a depuis 2-3 ans, il y a une demande sociale qui monte de plus d'Europe. Ce qui n'empêche pas qu'en même temps, on l'a tous constaté, il y a un débat très fort au sein de la société européenne, tous les pays confondus, sur est-ce qu'on est d'accord avec la manière dont le système politique européen fonctionne.
Oui, plus d'Europe, en attendant, ça ne veut pas dire grand-chose.
Ben oui et non. Ce que ça veut dire, c'est que le débat a été soulevé tout à l'heure par Geoffroy Didier. Ce que ça veut dire, ça veut pas forcément dire grand-chose concrètement, vous avez raison Julie Gacon, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une espèce de prise de conscience diffuse, qu'on est tellement interdépendant et on est devenu chacun, chaque pays, tellement peu de choses à l'échelle du monde, qu'en tous les cas, comme les mousquetaires, tous pour un, pour tous, on sera plus fort ensemble. Voilà, ça veut dire ça. Et une fois qu'on a dit ça, à partir de là, il y a un débat immense. Est-ce qu'il faut qu'on soit plus libéraux, moins libéraux, est-ce qu'il faut qu'on invente un souverainisme européen, qu'on ferme les frontières? Est-ce qu'il faut au contraire qu'on invente un cosmopolitisme européen? Est-ce qu'il faut qu'on invente une Europe où c'est les États qui ont davantage à main? Vous voyez, mais en tous les cas, le plan de relance tel qu'il se cristallise aujourd'hui, me semble-t-il, ne serait pas possible s'il n'y avait pas eu en amont, cette espèce de grande mutation à bas bruit depuis 3-4 ans des opinions publiques européennes et d'une opinion publique européenne, parce que on est quand même toujours en démocratie en Europe. Ça veut dire qu'en général, et là, à mon avis, c'est le cas, quand les dirigeants politiques, y compris Madame Merkel, font un grand shift ou un grand changement ou une grande bifurcation, c'est bien parce qu'il y a des élections tous les 5 ans et qu'ils essayent d'être en phase avec les mouvements des opinions publiques.
Je ne sais pas s'il y a une opinion publique européenne ni ce que disent les baromètres de l'opinion publique européenne, mais aujourd'hui, si vous allez ne serait-ce qu'en Grèce, le peuple grec, je ne parle pas des dirigeants politiques, mais se dit de toute façon, plan de relance ou pas, ça nous reviendra pas. Quoi. On le touchera pas, ça ira aux baronnies politiques de l'immobilier ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, voilà, ce plan de relance-là, est-ce que vous avez l'impression qu'il est susceptible de recréer ce désir d'Europe?
Juste sur les Grecs, quand on a demandé aux Grecs s'ils voulaient sortir de l'euro, c'est-à-dire en gros, et vous vous rappelez, il y a eu ce fameux référendum organisé par Alexis Tsipras en 2015, si je me souviens bien, on a dit aux Grecs, les Grecs ont dit on ne veut plus du mémorandum, qui était effectivement extrêmement sévère et qui les a mis à genoux, et en même temps les Grecs ont dit on ne veut pas sortir de l'euro. Voilà. Donc il peut y avoir un vrai débat sur est-ce qu'on peut pas faire l'euro autrement. Voilà, mais ça c'est un débat politique au sein de la société européenne.
Alors quel que soit le montant des subventions qui seront accordées aux 27, tout le monde n'est pas d'accord, hein, pour l'instant on est en train de partir sur 400 milliards, c'est ça le dernier chiffre qui a été, combien c'est ça?
Car, oui.
Oui, France et Allemagne défendaient 500.
450 milliards.
Voilà, c'est la négociation avec les frugaux.
350 milliards de prêts.
Voilà, ce qui se dessine c'est que chacun ensuite devra exposer aux 26 autres le détail de son propre plan de relance économique nationale. Ça veut dire quoi, Clémentine Forestier, que les autres pays européens auront un droit de regard sur les investissements que la France, en l'occurrence, prévoit, par exemple, pour relancer les grands travaux ou le fret ferroviaire, puisque c'est le sujet de notre prochaine émission. Concrètement, c'est ça?
Ça veut dire qu'à partir du moment où vous demandez de la solidarité pour emprunter en commun, pour vous aider à vous sortir d'une crise incroyable, il est assez logique que les personnes qui vous aident puissent se dire bah l'argent qu'on prête va servir à relancer le pays, non pas pour faire des réformes qui n'ont rien à voir avec cette crise, mais bien pour aider le pays à se sortir de cette crise. Et c'est ça en fait l'enjeu de cette discussion, qui est un des gros points de blocage entre les Européens en ce moment à Bruxelles. C'est quel type de gouvernance, pour utiliser un mot de jargon horrible, on va mettre en place pour s'assurer que les fonds sont bien utilisés. En gros, c'est ça. Et ce qui bloque énormément, c'est que les opinions publiques, pour le coup, grecques, italiennes, espagnoles, enfin celles qui ont connu ce que c'était que la Troïka et qui ont pu subir cette espèce d'interventionnisme où ils ont eu l'impression que leur démocratie leur était enlevée, ne veulent pas entendre parler d'une structure ou d'une supervision qui pourrait de près ou de loin ressembler à ça, en fait.
Geoffroy Didier, vous trouvez ça logique ou pas qu'il y ait un droit de regard de chacun sur chacun? Que la Pologne ait son mot à dire sur le plan de relance italien et vice-versa?
Oui, c'est le principe même de la solidarité. Qui dit solidarité dit responsabilité, dit sans doute aussi conditionnalité. Mais tout à l'heure, on disait, on avait le débat sur plus d'Europe ou moins d'Europe. Je trouve qu'on est passé un peu vite, si je peux me permettre, sur le fait que ces ressources propres ne donnaient pas lieu aujourd'hui à un accord politique et qu'en gros, on verrait plus tard. Mais quand on décide de dépenser en 3 ans 750 milliards d'euros, j'estime qu'on se doit vis-à-vis des peuples de savoir dès maintenant comment on va les rembourser. Et il faut être clair, c'est que s'il n'y a pas d'accord politique sur les ressources propres qui sont suggérées par la Commission, et souvent d'ailleurs à juste titre, qui va devoir payer? Les États membres, c'est-à-dire les citoyens européens. Et là se posera vraiment la question de la défiance à l'égard de l'Europe. Parce que si dans 5 ans ou dans 10 ans, et outre le fait que rien ne nous garantit que dans 2-3 ans, nous ne subissions pas une nouvelle crise qui appellerait un nouveau plan de relance que l'Europe ne pourrait plus se permettre d'adopter parce qu'elle aurait déjà tout dépensé en 3 ans. Mais si dans 5 ans, les peuples découvrent qu'ils ont dépensé 750 milliards, qu'il faut désormais les rembourser, qu'il n'y a pas d'accord politique sur les ressources propres et que ce sont donc à eux de les rembourser via de nouveaux impôts, je vous assure que le débat sur plus d'Europe ou moins d'Europe sera malheureusement résolu en faveur d'une défiance accrue à l'écart de l'Europe. Quant aux opinions publiques, il n'existe pas, selon moi, une opinion publique européenne. Et pour cause. Parce que regardez par exemple ce qui se passe sur la politique agricole commune qui constitue un peu plus du tiers du budget européen. Il y a aujourd'hui une volonté par exemple des frugaux ou d'autres diminuer le budget de la PAC parce qu'ils considèrent que dans des pays de l'Est, comme en Hongrie ou en Tchéquie, certains dirigeants reçoivent beaucoup de subventions car ils possèdent, en plus de diriger leur pays, des compagnies agricoles. Et d'ailleurs, les sanctions qui existent aujourd'hui sur l'état de droit en Pologne et en Hongrie sont sans doute aussi dues au fait que ces pays reçoivent beaucoup de subventions européennes. Donc oui, il est logique et sain que lorsqu'on adopte la solidarité, et moi je suis favorable au principe d'une solidarité, il y ait aussi une conditionnalité, ça s'explique aisément, et un esprit de responsabilité, et surtout un droit de regard des uns sur les autres et de la manière dont les subsides européens sont investis et dépensés par l'un ou par l'autre.
Clémentine Forissier, est-ce qu'il est encore temps d'impliquer les citoyens européens dans ce qui est en train, en ce moment, de se jouer, de se discuter à Bruxelles, et comment ?
Oh là là, c'est une vraie vaste question. Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'à un moment où l'argent, il n'y a pas d'argent magique, donc il va bien falloir le trouver quelque part si on veut le rembourser, et que là, il n'y a pas 50 options. En gros, soit vous augmentez les contributions nationales au budget européen, donc ça veut dire qu'en fait, on donne plus d'argent au niveau européen, soit vous diminuez, donc ça veut dire que vous diminuez encore le budget européen, parce que ce qu'on dit pas trop, parce que là on parle du plan de relance, c'est des sommes énormes, hein, 750 milliards d'euros, mais en fait c'est lié aussi au budget de l'UE qui est autour de 1100 milliards d'euros, mais là le budget communautaire, à côté, il est en train de baisser petit à petit dans la négociation. Parce que justement, en fait, si on prend un endroit, on veut retirer de l'autre, parce qu'on ne veut pas donner vraiment plus. Donc, soit vous diminuez le budget communautaire, soit vous augmentez les contributions nationales, soit vous trouvez une manière, et c'est pour ça qu'il y avait cette histoire de ressources propres. Et à un moment ou à un autre, mais le problème, c'est que l'Europe, c'est loin, mais à un moment ou à un autre, c'est le citoyen qui est derrière. Je veux dire, ça tombe pas du ciel. Il y a un moment où il va falloir trouver de l'argent quelque part.
Bon, pour conclure, Sylvain Kahn, vous parliez tout à l'heure, Clémentine Forissier, de dramaturgie. Les récits du sommet d'hier, de la journée d'hier à Bruxelles, disent que le duo franco-allemand a quitté la Réunion. C'est donc un personnage, ce duo franco-allemand, un mythe opératoire de l'Europe, dites-vous.
Oui, effectivement, j'ai dans un bouquin qui s'appelle « L'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945 » au PUF, j'ai proposé cette appellation, cette hypothèse, disons, qui est d'ailleurs assez spécifique à la manière dont la société française se raconte la construction européenne. C'est-à-dire que, par exemple, le mot de « couple » franco-allemand n'existe pas en tant que tel en allemand, en Allemagne. En Allemagne, on parle plutôt de « tandem », par exemple, ou éventuellement de « moteur ». Parce qu'effectivement, quand on fait de la politique, on le sait bien, et toute société, qui plus est dans une société démocratique, a besoin d'un récit pour avancer. Or, on peut dire très rapidement que l'histoire de la construction européenne, c'est effectivement la mutualisation de la souveraineté. Or, comment un État ou comment une société comme la France, qui en un sens fait partie dans l'histoire universelle de celle qui invente la souveraineté nationale, on peut faire remonter ça à la Révolution française, mais même parfois avant, comment est-ce qu'on invente un récit où on dit « nous, héritiers de l'invention de la souveraineté nationale, avec d'autres, nous décidons, depuis 1950, d'inventer une Europe où on mutualise les souverainetés. » Voilà. Alors,
mais pour raccrocher au sommet de Bruxelles, est-ce que c'est pas parce que l'Allemagne, qui jusqu'à présent était considérée comme une alliée de ces pays qu'on dit frugaux, et que l'Allemagne a rejoint la position notamment française, est-ce que c'est pas pour ça qu'on a tendance à avoir une nouvelle unité européenne là où il n'y en aurait pas, parce qu'en fait l'Europe elle est toujours aussi polarisée, et c'est bien ce dont on se rend compte là en voyant qu'il y a toujours rien qui est tombé, c'est toujours rien décidé à Bruxelles là, il est 13h14, ça a repris il y a déjà 2 heures, il s'est rien passé.
Effectivement, c'est-à-dire que quand, pour aller vite, la France et l'Allemagne n'étaient pas dans le même camp, entre guillemets, s'agissant des discussions budgétaires, on disait, on vous l'avait bien dit, l'Europe vraiment n'avance pas, est vraiment clivée, divisée, etc. Quand la France et l'Allemagne sont dans le même camp, en France, en tous les cas, on dit, c'est formidable, l'Europe n'est pas si divisée que ça, puisque on se dit, dès lors que les Français et les Allemands sont sur une même ligne, forcément ça va déboucher. Or, comme vous venez de le dire, on voit bien que c'est quand même compliqué, mais ça débouchera, c'est sûr que ça débouchera.
Eh ben, on verra. En tout cas, la rédaction de France Culture suit ce sommet européen et vous en donnera des nouvelles à 18h, ainsi que la matinale de demain sur France Culture avec Chloé Cambrelin. Et puis, si les discussions venaient à échouer, une deuxième rencontre serait organisée en août. Merci beaucoup à vous trois d'avoir discuté de tout ça avec nous ce matin. Clémentine Forissier, rédactrice en chef de Contexte. Geoffroy Didier, député européen Les Républicains. Et puis, Sylvain Kahn, vous avez fait paraître l'année dernière un ouvrage coécrit avec le géographe Jacques Lévy, Le pays des Européens, chez Odile Jacob. Merci à vous. Punk et Julian Casablanca pour Instant Crush. Vous écoutez France Culture, il est 13h19.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
C'est l'une des nombreuses conclusions et propositions de la Convention citoyenne pour le climat, relancer le transport de marchandises par le rail. Et pour une fois, tout le monde semble à peu près d'accord. Emmanuel Macron, dans son discours du 14 juillet, reprenait cette injonction à son compte. Il faut redévelopper massivement le fret par le rail, question d'économie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui pourtant, seul 9% du transport de marchandises en France se fait par le train. C'est deux fois moins qu'il y a 20 ans. Alors est-il possible de remettre des infrastructures en route, l'expression j'en conviens est mal choisie, ou de convaincre les industriels de choisir à nouveau le rail pour transporter leur production? Les habitudes se perdent vite. En tout cas, on en discute jusqu'à 13h50 avec nos trois invités. Bonjour Karim Adeli.
Bonjour.
Je crois que vous avez le sens de l'à-propos. Vous êtes en voiture, en covoiturage. C'était pas prévu, mais en tout cas, bienvenue. Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts, présidente à Strasbourg de la commission du transport et du tourisme. Je salue également Patrice Salini, en liaison également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en économie des transports, vous avez travaillé pour les ministères des transports ou de l'équipement et dirigé l'Observatoire économique et statistique des transports. Et puis avec nous en studio, bonjour Thomas Porte.
Bonjour.
Merci également, vous êtes le responsable national du Parti communiste en charge du collectif des cheminots, vous êtes syndicaliste CGT et ancien chef de circulation dans le rail. Alors avant de parler de relance du fret, on peut déjà commencer par évaluer ce qui existe déjà ou ce qui existe encore. Pour se représenter le réseau, ce sont à peu près 400 trains de marchandises qui circulent chaque jour dans toute la France. Pour acheminer quoi, Thomas Porte ?
Pour acheminer des produits de première nécessité, notamment on l'a vu pendant le confinement, puisqu'on nous a souvent dit depuis des années que le fret ne servait à rien, mais il a permis de tenir le pays debout pendant cette période-là. Donc aujourd'hui, vous avez effectivement un état des lieux qui est extrêmement inquiétant. Il reste à peu près 5 ou 6 triages ouverts sur le territoire national français, alors qu'il en existe une quarantaine qui sont laissés à l'abandon. C'est le résultat des politiques libérales qui ont été menées depuis des années. Et je crois que Karim Adeli reviendra, mais c'est aussi les choix qu'a fait l'Union européenne de libéraliser le fret ferroviaire en 2006 qui ont mené aujourd'hui à cette situation catastrophique.
Alors pardon, vous disiez que les trains ont tourné à plein main dans le confinement ?
Effectivement, on avait quasiment 400 trains par jour de fret qui ont tourné dans le pays, ce qui est énorme. Et les cheminots du fret ont travaillé à 80-90% pour acheminer des produits dans les hôpitaux, pour faire tourner des entreprises, pour amener des denrées alimentaires dans les magasins pour que les gens puissent se nourrir. Donc c'est un produit essentiel. C'est aussi pour ça qu'on revendique le fait que le fret soit intégré dans un service public national.
Moi, en revanche, cette fois-ci, l'économie était à l'arrêt, donc tout ce qui est ce qui se transporte habituellement, notamment pour le BTP, n'a pas été transporté. Mais c'est ça aussi au quotidien, les trains de marchandises. Ce sont des matériaux.
Ce sont des matériaux de diverses sortes, et on y reviendra tout à l'heure. Mais un des éléments qui a entraîné le déclin du fret, c'est ce qu'on avait à l'époque, le wagon isolé, qui a été abandonné en 2008, qui permettait, si vous voulez, sur un train, vous avez 30 wagons. Il y en a un pour un tel département, un pour une telle entreprise, qui permettait de disséminer au fil du territoire des entreprises et de les alimenter. Parce qu'aujourd'hui, vous comprenez bien qu'une entreprise de petite et moyenne taille, elle n'est pas intéressée par un train complet. La SNCF, elle a fait ce choix pour répondre à l'ouverture à la concurrence, et c'est une catastrophe. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, on a moins de 10% de la part modale du transport de marchandises sur rail, et c'est absolument catastrophique. Et on connaît tous l'exemple du Perpignan-Rungis, qui a fermé il y a quelques mois et qui est un scandale absolu. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Emmanuel Macron, s'il veut s'engager dans le fret ferroviaire, et on le souhaite, que la première décision symbolique, ce soit de relancer cette ligne.
Alors justement, le Premier ministre Jean Castex était attendu aujourd'hui par le vice-président de la région Occitanie, Jean-Luc Gibelin, et puis finalement il n'a pas pu aller là-bas, il est allé à Nantes, là où la cathédrale a brûlé. Mais voilà, il devait venir du côté de Perpignan pour parler de ce train dit des primeurs qui acheminent des produits à Rungis depuis Perpignan et notamment des légumes espagnols. C'est un train qui est suspendu depuis un an. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a promis, c'était en novembre dernier, qu'il circulerait à nouveau. Et depuis, plus grand chose, Karim Adeli. Karim Adeli, est-ce que vous êtes là ? Non, et ben je vais me tourner vers Patrice Salini. Vous avez suivi particulièrement cette ligne Perpignan-Rungis.
Oh. Train des primeurs. Ouais. Je me souviens avoir travaillé sur cette liaison au début des années 80, c'est pas hier. Et ce qui était amusant, si je puis dire, c'est que une partie du monde ferroviaire, les groupeurs ferroviaires et la SNCF, luttaient d'une certaine manière contre le développement du transport combiné sur l'axe. Vous aviez un certain nombre d'opérateurs qui développaient le transport combiné rail-route et de manière efficace, puisqu'ils allaient à l'époque directement à Rungis. Donc c'est une vieille histoire. Et en fait, ce qui reste aujourd'hui, c'est malheureusement les décombres d'une organisation inadéquate et d'une façon inadéquate de traiter les réalités du marché.
Mais en l'occurrence, vraiment pour le Perpignan.
Il y a là un flux massif qu'on pouvait parfaitement traiter par le combiné de manière efficace. Bon, on avait choisi de faire autrement, voilà le résultat. Que dire d'autre?
C'est-à-dire, Thomas Porte, est-ce qu'on a une idée du nombre de camions que met sur la route la suppression d'un seul de ces trajets en train, d'un seul Perpignan-Rungis?
Sur un seul, je ne pourrais pas vous dire, mais l'équivalent d'un train de 35 wagons, c'est 55 camions de 32 tonnes, pour vous donner un ordre d'idée. Et chaque fois que le Perpignan-Rungis ne roule pas, ce qui est le cas actuellement, et que les marchandises sont acheminées par la route, c'est 44 tonnes de CO2 qui sont jetées dans l'atmosphère. Maintenant, sur la question du wagon combiné ou du wagon isolé ou des wagons frigorifiques, parce que c'est des éléments techniques, il faut quand même savoir que le conseil départemental du Val-de-Marne a investi des millions d'euros pour que les wagons frigorifiques puissent être directement à l'intérieur du mine et être déchargés. Donc nous, l'argument du transport combiné, on a du mal à l'entendre. C'est une question de volonté politique. Et il faut que ce train y roule. De l'argent public a été investi. Et aujourd'hui, on a des wagons qui sont dans un état catastrophique parce que la SNCF n'a jamais voulu investir pour les rénover. Et on a découvert qu'en plein milieu du mois d'août, elle a tenté de détruire une trentaine de wagons. Et heureusement, il y a eu une intervention des syndicalistes pour alerter le gouvernement.
Mais vous savez quel est le problème, Thomas Porte? En tout cas, ce qu'on nous dit sur le Perpignan-Rungis, c'est que les chargeurs principaux sont partis. Ils sont plus là.
Oui,
donc que les trains tourneraient à vide.
Effectivement, mais c'est aussi la politique de Fret SNCF qui a été détruite et déshumanisée depuis des années, où à l'époque, on avait des commerciaux qui démarchaient les entreprises et qui démarchaient les grossistes pour leur proposer des trains.
Aujourd'hui, là-bas, il y avait
Patrice Alimi.
Sur le site, là-bas, il y avait un grossiste, on le connaît tous. Il était contre le combiné et il faisait du business avec ses copains groupeurs ferroviaires. Bon, ils ont combattu le combiné, ils ont combattu le développement du transport ferroviaire là-bas. C'est une réalité. Mais je pense pas que le problème qu'on a à poser aujourd'hui, c'est Perpignan-Rungis. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a aujourd'hui un transport ferroviaire, vous l'avez dit tous, qui représente une part extrêmement faible du transport terrestre de marchandises. Et si on regarde les choses de manière un peu historique, on est au niveau de trafic de 1927. C'est dire.
D'accord.
C'est dire. Donc voilà la réalité. Alors on peut s'engueuler sur deux trafics, sur telle ou telle ligne, etc. La question c'est pourquoi en est-on arrivé là? Et la question essentielle c'est savoir comment on peut faire pour effectivement donner sa chance au rail, au fret ferroviaire dans ce pays.
Alors pourquoi en est-on arrivé là?
Je dis donner sa parce que on est manifestement, on a régressé relativement à nos voisins. Je me rappelle il y a encore quelques années, on disait que les Italiens, les Anglais, les Espagnols étaient nuls par rapport aux Français. Maintenant on fait un peu une grise mine, d'une certaine manière, par rapport à eux. Et on a connu une régression réelle. Bon, alors, il y a plein d'explications à cette régression. Il y a aussi
des raisons structurelles.
Il y a notre production. Non, mais notre production. Je veux dire, quand on n'a plus d'appareils industriels, on n'a plus d'échanges interindustriels.
Mais alors.
On n'a plus d'échanges industriels, on risque pas de transporter des marchandises.
Mais justement, on nous dit toujours, s'il vous plaît, on nous dit toujours que la désindustrialisation, c'est ce qui cause aujourd'hui la désaffection du fret ferroviaire. Mais pourtant, peut-être il y a moins d'usines, mais il y a beaucoup plus de grandes zones commerciales, par exemple. Elles aussi, elles seraient susceptibles de générer du trafic.
Les zones commerciales sont jamais embranchées. Vous avez pu remarquer qu'il y a rarement de voies de chemin de fer qui arrivent dans les zones commerciales. On a démonté celles qui étaient proches de Paris où on les dessert plus. D'autre part, les grands flux d'importation, ils viennent de ports. Est-ce que, par exemple, on pourrait regarder la desserte du port du Havre, sans parler des ports étrangers qui prédominent aujourd'hui, hein, Anvers et Rotterdam ont une place bien plus importante sur la région parisienne qu'Anvers, que le Havre. Mais si on regarde le Havre, honnêtement, si vous voulez organiser du transport ferroviaire de fret, c'est pas commode, il y a eu des investissements faits, mais on voit bien que les parts de marché sont très faibles. La question c'est pourquoi? Et comment on peut faire pour faire mieux? Mmh. Et le problème c'est qu'on sort toujours des cas symboliques, médiatiques, mais la réalité c'est comment on fait pour développer concrètement le transport ferroviaire en France.
Donc,
Karine... Si tant est qu'on soit capable de le faire à un horizon raisonnable pour faire baisser les émissions de CO2. Vous savez, les émissions de CO2 des camions aujourd'hui en France, c'est 30 millions de tonnes de CO2. Bon. Si on veut économiser ne serait-ce que 10 millions de tonnes, en les transférant sur rail, il faut être capable, d'une certaine manière, de multiplier par 2,5 ou 3 le nombre de circulations de trains de marchandises en France.
Alors,
je ne sais pas aujourd'hui si on sait le faire.
Karima Deli, je crois que vous êtes à nouveau avec nous. Si la part du fret ferroviaire aujourd'hui dans le transport total de marchandises a été divisée par 2 en 20 ans, ce n'est donc pas qu'une question d'infrastructure, c'est vraiment une question politique, une question de volonté politique.
Voilà. C'est une question de volonté politique. Je rappelle qu'il y a eu, dans le Grenelle de l'environnement, nous étions en 2007. 2007, on disait déjà, avant 2020, il faut faire que la part du fret ferroviaire atteignent les 14%. Nous sommes aujourd'hui en France à 9%. Donc, vous voyez le temps qu'on a perdu, hein. Ça fait quand même 13 ans qu'on dit on va relancer le fret, on va relancer le fret. Et non, parce qu'on a fait des choix politiques qui n'ont pas été que le fret ferroviaire a été une priorité. Au contraire, on a fait plus, notamment des TGV, et on a continué justement de travailler dans le secteur routier. C'est la raison pour laquelle, et ça a été dit par Thomas, on a vu que après la crise du coronavirus, justement les acteurs du fret ont continué justement à être un secteur clé qui a permis justement de faire que le passage des marchandises aille et puisse être fait. C'est la raison pour laquelle, au niveau européen, comme le gouvernement français ne se bouge pas, eh ben moi j'ai décidé justement de faire en sorte que le fret soit une priorité au niveau européen. C'est la raison pour laquelle vous avez évoqué les objectifs du fret. Il ne faut jamais oublier deux choses. Le fret, oui, c'est un véritable allié pour le climat. Quand on regarde le fret ferroviaire, ça émet 9 fois moins de CO2 que émet le fret routier. Et ensuite, nous avons des objectifs à atteindre l'Union européenne. Et on a des objectifs ambitieux. Nous devons absolument réduire nos gaz à effet de serre dans le nouveau Green Deal. Il y avait une émission avant qui parlait du plan de relance. Dans le nouveau Green Deal, on a l'objectif de réduire de 50% nos gaz à effet de serre d'ici 2030. 2030, c'est pas dans 10 années, c'est demain. Et ensuite, de rentrer dans la neutralité carbone. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer ce qu'on appelle notamment la nouvelle coalition ferroviaire, qui comprend l'ensemble notamment des opérateurs de ferroviaire et qui atteigne aujourd'hui...
Non, la ligne est très mauvaise, Karim Adeli. Je pense qu'on va attendre que vous ayez un tout petit peu plus de réseau pour connaître la suite. Mais Thomas Porte, d'accord, le transport par le rail, écologiquement, ça paraît une évidence. Sauf que les petites lignes sont souvent au diesel, les moteurs sont vieux, donc il faudrait tout refaire, en fait. Avant, on a fait le constat là du réseau, des infrastructures, mais ensuite il faut refaire, quoi.
Effectivement, il faut un plan d'investissement extrêmement ambitieux pour relancer le fret ferroviaire. Et on ne va pas se mentir, faire du transport public de marchandises, ça coûte de l'argent. Effectivement. Mais ça a derrière une rentabilité sociale, une rentabilité économique, une rentabilité écologique. Les deux invités l'ont dit. Aujourd'hui, on a besoin de relancer ce transport pour irriguer des territoires et les relancer. Il faut le mettre en lien avec la réindustrialisation et la relocalisation qui semble être à l'ordre du jour. C'est une bonne chose. Et on parlait tout à l'heure des ports. Mais nous, on a une proposition très forte. C'est qu'aujourd'hui, les ports de France, ils doivent être embranchés au ferroviaire. Tous les marchés d'intérêt nationaux à l'image du mine de Rungis, il doit être relié au ferroviaire. Et moi, j'ai un exemple extrêmement parlant. Vous avez Ikea à Bayonne, par exemple, qui reçoit des dizaines de camions par jour pour lui amener ses marchandises. Et à quelques centaines de mètres, il y a une voie ferroviaire avec un embranchement. Et aujourd'hui, c'est à l'abandon. Et alors qu'on aurait les moyens d'acheminer les matériaux par train. Mais ça, c'est la direction de la SNCF qui doit assumer ses responsabilités et refaire du fret ferroviaire une priorité. Parce qu'il y a un homme qu'on oublie dans cette histoire. C'est quand même Guillaume Pépi qui a été le plus grand fossoyeur du fret des dernières années. La SNCF, c'est une filiale. Bon, elle a Géodis, qui est la première entreprise, et je finis là-dessus, de marchandises sur la route. Elle concurrence elle-même le train avec des salariés de l'Est embauchés à 300 ou 500 euros par mois. Donc il faut le dire, il y a une concurrence déloyale. Le camion ne paye pas l'infrastructure routière, le train la paye.
C'est ça, en fait... Alors Patrice Salini,
ça c'est totalement faux. Non, je veux bien qu'on dise des choses, mais moi honnêtement, je me bats depuis des années pour essayer de réhabiliter le fret ferroviaire et faire en sorte qu'on ait une vraie politique de fret ferroviaire dans ce pays. Hein. Je vous dis ça, ça remonte à longtemps, les premiers rapports que j'ai pu faire dessus datent du début des années 80. Mais qu'on dise que les uns payent les infrastructures et pas les autres, le fret ferroviaire ne paye pas son infrastructure, elle est tarifée à 13 en dessous de la moitié. Les camions qui roulent sur autoroute et les camions qui consomment du gazole payent largement les infrastructures. Donc la question, c'est pas un problème d'égalité de conditions de concurrence. On pourrait aussi parler de conditions sociales.
Mais la concurrence déloyale, c'est vrai qu'elle est arrivée par la route.
Les gouvernements ne s'intéressent pas aux conditions sociales. Quand on veut harmoniser les conditions sociales, on n'harmonise que les salariés, ce qui fait qu'on développe le tractionnariat routier à côté. Le problème, c'est qu'on n'a pas de politique globale et on ne veut pas comprendre que sans politique globale, on n'y arrivera pas. Mais ceci dit, la question du fret ferroviaire, il ne s'agit pas de se poser le problème de savoir si on est capable de subventionner encore le fret ferroviaire. La question est de savoir comment on fait pour le rendre compétitif et efficace. Ça, c'est possible. Il y a des solutions. Il faut commencer à réfléchir de manière sérieuse sur ce que c'est que la circulation
des trains. Mais déjà, apparemment, ce n'est pas la libéralisation.
La productivité, enfin, l'usage des réseaux en France par rapport à la Suisse, c'est délirant.
Patrice Salini, l'ouverture à la... Patrice Salini, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Justement, vous dites que l'argument qu'il faut... imaginer un transport de marchandises par les rails efficace. L'ouverture à la concurrence, l'argument majeur de ceux qui plaidaient pour l'ouverture à la concurrence, c'était celle de l'efficacité. Ça n'a pas marché.
Oui, mais ça,
donc
ça,
il faut
moi,
imaginer quoi.
Enfin, si vous voulez, je pense que d'abord, on a une question de gestion d'infrastructure. Vous savez que ça fait un an qu'on essaye de compter les trains et de calculer la capacité de la ligne Lyon-Turin en France. Enfin, vous vous rendez compte qu'on n'est pas capable de répondre à une question simple, quelle est la capacité de la ligne et combien de trains circulent dessus. Voilà où on en est dans ce pays.
Bon, le Lyon-Turin, c'est vraiment
après les problèmes. Aujourd'hui, vous avez des opérateurs, on en connaît. Est-ce que vous trouvez normal que des associations écologiques et des transporteurs routiers demandent de développer l'offre de services ferroviaires sur la liaison Lyon-Turin, sur la ligne classique?
Sur la ligne classique, le transport routier,
que personne n'offre de solution. Ça traîne depuis un an, cette affaire.
Même beaucoup plus
donc
encore.
Donc il y a vraiment un problème.
Oui, comment est-ce qu'on convainc, Thomas Porte, les industriels de choisir le rail pour le transport de marchandises? Eux aussi, ils font des calculs. Souvent, les embranchements qui étaient devant les entrepôts, ils ont été condamnés, vous en parliez tout à l'heure, quand ils n'ont pas été tout simplement retirés. Il faut aussi remettre tout ça en ordre de marche. Comment on les convainc, les industriels? Certains, aussi peut-être pour leur image, s'y remettent. Je pense à lui. L'usine Perrier de Vergès dans le Gard qui a rétabli une liaison avec le port de Fos-sur-Mer à 100 km. Bon, à part certains industriels qui veulent se donner aussi une image écolo.
Mais je crois qu'effectivement, vous avez raison, on ne pourra pas faire sans les industriels et sans les entreprises. Et ça, c'est toujours ce qui a été dit par le Parti communiste français sur ces questions-là, par exemple. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui veulent refaire du fret parce qu'elles ne veulent pas mettre des marchandises dangereuses dans les camions avec la question des accidents et tout ça. Et on a eu, on a eu il y a quelques années un exemple en Tarn-et-Garonne où une entreprise voulait acheminer de l'essence par train jusqu'à l'intérieur du département pour alimenter après les secteurs agricoles autour. La SNCF n'a pas voulu le faire par train. Et l'entreprise a dit, moi je ne prends pas le risque de le faire aujourd'hui par camion. Donc il faut une volonté politique, il faut des investissements. Et je crois qu'au bout du bout, ça passera par la contrainte parce qu'il faudra imposer avec des décisions fortes que les industriels reviennent à l'usage du train. C'est aujourd'hui la seule solution. On n'en peut plus d'avoir des murs à camions sur les lignes.
De leur offrir, comment on fait?
Mais parce qu'il faut un plan d'investissement.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a une demande, je prends encore l'exemple de tout à l'heure, la FNTR a signé un papier que vous avez tous pu voir demandant la création d'un service entre Lyon et Turin. On lui a toujours pas répondu, hein.
Mais aujourd'hui, je vais vous répondre parce que effectivement, il y a des tas de demandes industrielles qui n'ont pas de réponse de la part de la SNCF. Mais regardons ce qui s'est passé au fret SNCF. Ça a été ouvert à la concurrence. On avait 12 000 salariés quand ça a été ouvert à la concurrence.
Et aujourd'hui?
On en a moins de 5 000 aujourd'hui. On a détruit l'outil. On n'est plus en capacité de répondre aux demandes. Sauf qu'on n'a pas investi d'argent public. On n'a pas rénové le réseau. On n'a pas réouvert les triages. Donc aujourd'hui, c'est facile de dire que c'est la faute des cheminots et de la SNCF. Donnons les moyens à l'entreprise publique de faire du fret.
Rapidement, Patrice Salini.
C'est la faute de la DB qui répond pas plus, hein.
Personne ne répond. Le dossier Lyon-Turin, il est tellement particulier.
Il y a une demande, c'est moins cher que la route, et personne ne répond à la demande. C'est extraordinaire.
En tout cas, le dossier du Lyon-Turin, si vous le voulez bien, on va le mettre de côté, parce qu'il est vraiment très, très particulier. Il engage des questions qui vont encore au-delà de la simple question du transport de marchandises. Karim Adeli, est-ce qu'on sait précisément aujourd'hui quels sont les besoins du réseau, l'état des infrastructures? Est-ce qu'on peut évaluer les besoins et connaître Oui, allez-y.
Bien. Alors d'une part, c'est qu'il faut toujours se mettre dans un contexte européen lorsqu'on regarde notamment les comparaisons de frais de marchandises. Quand on regarde l'Allemagne aujourd'hui l'Allemagne tend vers, comme l'Autriche, ils sont près de 30% de fret. La Suisse, c'est 35%. Mais on voit bien qu'il y a une volonté très volontaire dans l'ensemble des États membres d'aller vers ces frais ferroviaires. Maintenant, si je fais un focus français, pourquoi ça ne marche pas le fret ferroviaire? Je le répète, parce que ça n'a pas été une priorité. Maintenant, ça devrait devenir une priorité, mais vous l'avez redit, en gros, la volonté, même s'il y a les opérateurs qui veulent le faire, c'est un choix politique. Et le choix politique va nous amener à vous poser la question des investissements, qui est la grande question. Et quand on investit dans le fret ferroviaire, il faut ne jamais oublier une chose, c'est 1 euro dans le fret ferroviaire, c'est 2 euros gagner coût-bénéfice en termes de pollution, de la santé et du climat, ce qui est quand même pas négligeable.
Comment vous avez calculé ça?
Alors ça, ce sont des calculs qu'on a fait avec notamment les services de la SNCF et qui nous ont prouvé que justement cette étude, c'est gagnant-gagnant.
Peut-être qu'on fasse de manière pluraliste.
Attendez, monsieur Salini, on laisse juste finir Karim Adeli, c'est un peu compliqué, vous êtes à distance. Merci monsieur.
Mais la, mais la, mais la vraie question, c'est d'où, pourquoi les autres pays ça marche et pas nous? Mais parce que eux, ils ont des leviers d'action d'investissement que nous n'avons jamais réussi à mettre en place. Par exemple, l'Allemagne, la Suisse, ils ont ce qu'on appelle une taxe poids lourd. Une taxe poids lourd dont les recettes vont aller directement, notamment dans les investissements de la relance du train et notamment du fret ferroviaire. C'est la raison pour laquelle, comme la France ne le fait pas, moi, mon travail, c'est de le faire au niveau européen et nous allons mettre en œuvre ce qu'on appelle une redevance poids lourd. Une redevance poids lourd, c'est une taxe poids lourd. Partout en Europe, comme ça, il n'y a pas de concurrence entre les uns et les autres en termes de fiscalité écolo, et de dire que le fléchage doit aller dans une relance réelle, notamment du fret ferroviaire. Cela étant dit, tout à l'heure, on a parlé de ce qu'on appelle le transport combiné. Ça veut dire qu'il faut que la flotte des camions soit adaptée. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'une taxe poids lourd, une partie doit aller notamment dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises du routier pour pouvoir s'adapter. Et ensuite, il y a un maillage. Et le maillage, justement, ça, c'est un vrai problème français. Le maillage, tout à l'heure, quelqu'un a dit, oui, les marchandises passent par les ports. C'est quand même dingue qu'en France, on a parlé du Havre, mais il ne faut pas seulement parler du Havre. Il faut parler de Marseille, il faut parler de Dunkerque. Tous ces ports ont une ligne de fret qui a été malheureusement laissée de côté depuis des années. Il suffit juste de rénover pour pouvoir relancer le fret et ensuite faire les corridors
alors,
de fret.
Alors, Karima Deli, un instant. Oui, alors, Karima Deli, je ne sais pas si vous êtes au bord de la route. Oui, on va vous entendre, Patrice Salini. Vous êtes au bord de la route sur une aire avec des routiers, mais c'est vrai, Patrice Salini, quand même, que la France a abandonné l'écotaxe, qu'on a généralisé en 2003 l'autorisation des poids lourds de 44 tonnes à 5 essieux. C'est un peu technique, mais ce sont les camions qu'on utilisait déjà dans le secteur agricole et agroalimentaire. Mais pour autant, est-ce que...
On l'utilisait à l'étranger aussi.
Et à l'étranger,
y compris
d'accord.
Dans les pays qui sont soi-disant vertueux.
Alors comment on réunit les 13 milliards d'euros que demandent par exemple les professionnels du secteur aujourd'hui pour investir dans le fret ferroviaire ?
Écoutez, je reviens à ce que j'ai dit. Quand vous prenez les professionnels et vous les réunissez autour d'une table, vous rendez compte qu'il y a une volonté de développer le combiné. Pour développer le combiné, il y a des conditions. Il faut qu'on soit capable d'offrir une capacité de transport suffisante, ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'on soit capable d'offrir des fréquences qui se correspondent à la demande des clients. Il faut qu'on soit capable d'offrir des coûts compétitifs et il faut qu'on soit capable d'offrir une fiabilité. Ces dernières années, chacune de ces cases était mal ou pas cochée par l'offre ferroviaire, quels qu'en soient les auteurs, que ce soit la SNCF ou ses concurrents, c'est la même chose. Bon. Il y a des raisons à ça. Il y a un problème de réseau, on le connaît. Il y a un problème d'entretien du réseau. Il y a un problème de saturation du réseau à certains endroits. Etc., etc. Et puis, il y a aussi un problème de conception de l'offre. On peut faire du combiné de manière plus efficace. On va pas rentrer sur les détails techniques, mais à la fois sur la question des wagons, sur la question de la manutention, sur la question de la forme, du dessin des terminaux. On est encore à l'âge de pierre. Vous vous rendez compte que sur la manutention des wagons, par exemple, on en est encore à des systèmes, je dirais, qui existaient il y a des années et des années, des décennies. Bon. Bref, peu importe. On a à réfléchir, je pense, collectivement sur comment, d'un côté, on fabrique une offre compétitive et comment, de l'autre, on cherche à s'adapter au marché et répondre à ces possibilités offertes par les opérateurs. Pour l'instant, rien ne se fait.
Oui. Alors,
on bricole. Et si vous regardez les comptes des entreprises qui font du combiné, je vous incite à les regarder. C'est déprimant. Enfin, personne ne gagne de l'argent dans cette affaire. Et je dirais, s'il n'y avait pas une petite subvention à la manutention, ils auraient déposé le bilan depuis longtemps.
Patrice Salini, Karima Deli nous fait signe pour intervenir, et ensuite je me tournerai vers Thomas Porte. Allez-y, Karima Deli, rapidement,
non,
s'il
mais
vous plaît.
Monsieur, vous avez beau crier comme ça, oh là là, il faut le faire.
Il ne crie pas.
Non mais regardez ce qu'on vient de faire au niveau européen. Il y a 2 mois est née la coalition européenne du fret ferroviaire. Toutes les questions que vous abordez, je la mets en œuvre. Alors vous avez raison, il faut d'abord partir des besoins, mais les besoins sont là. Ensuite, quand tout à l'heure vous parlez du transport combiné, c'est comment on accompagne justement ces entreprises du routier pour rentrer dans la dynamique du transport combiné. C'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, la vérité, tout ça, on le fait. Et tout ça, ça va être du législatif, puisque je suis la présidente de la commission de transport. Les textes vont sortir sur la redevance poids lourd, sur le transport combiné, avant décembre. Pourquoi ? Parce que l'année 2021, c'est l'année européenne du train. Et que l'Europe ne peut pas se permettre juste de faire de belles annonces comme ça en disant des années européennes, si parallèlement nous n'avons pas.
Alors, c'est vrai. Rapidement, s'il vous plaît.
Sur notamment la question financière, moi je me bats pour que le plan de relance n'importe où en Europe, on ait une part décisive, justement, sur le fret ferroviaire. Mais là où nous ne sommes pas prêts, c'est pas sur, notamment, la rénovation, etc. C'est sur la formation des salariés. Il va falloir embaucher. Il va falloir regarder aussi la digitalisation. Ça, c'est totalement nouveau. Vous voyez? Et c'est ça que les États devraient anticiper. Et aujourd'hui, on a une France, non pas que la SNCF et le fret français n'est pas prêt, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de dire dans les grands discours, on va aider le fret, et que dans les faits, ça n'existe pas.
Et notamment, juste avant l'annonce d'Emmanuel Macron, la SNCF annonçait, c'est pas de chance, c'était le 10 juillet, ne pas vouloir conserver la ligne de fret Volvic-Le Mont d'Or parce qu'elle rapporte trop peu et qu'elle coûte trop cher en travaux de maintenance. C'est vrai que les travaux coûteraient 1 200 000 euros, mais cette ligne ne rapporte à la SNCF que 23 000 euros par an. Thomas Porte, on peut comprendre le calcul?
Oui, on peut le comprendre, mais c'est une fois de plus, on raisonne simplement en termes de rentabilité. Et nous, notre position, elle est de dire que le fret ferroviaire, aujourd'hui, doit être extrait des logiques de marché et répond à des questions d'intérêt général, car Karim Adeli l'a rappelé.
Là, par exemple, c'est quoi l'intérêt général
de cette ligne? C'est une question de pollution. Vous allez aujourd'hui avoir 12 000 camions qui vont être remis sur les routes si cette ligne ferme. Est-ce qu'on veut ça aujourd'hui, alors qu'on a quasiment 50, 60 000 personnes qui meurent chaque année en France de la pollution? 8,8 millions de personnes sont mortes dans le monde en 2018 de la pollution. Et aujourd'hui, on nous explique qu'on va fermer cette ligne parce que ça coûte 1, 2 ou 3 millions d'entretien, mais c'est pas le sujet.
Avec en plus des stations thermales, voilà, pas loin.
Exactement. Et Karim Adeli le dit aujourd'hui. On dit qu'on veut aider le fret. Allons-y, mettons de l'argent. Emmanuel Macron dit on relance le fret. Quel calendrier? Quel investissement? Quel plan de travail? Aujourd'hui, on n'a aucune réponse à ça. Et encore une fois, c'est pour l'instant que des mots. Et on sera très attentif aux actes parce que je crois que dans la population française, il y a quand même un large consensus pour dire aujourd'hui qu'il faut en finir avec les camions qui engorgent nos routes, en finir avec ce modèle de société-là et relancer le train de marchandises pour avoir un transport propre avec des conditions sociales de haut niveau pour les salariés, parce que c'est important.
Pour atteindre quelle part de transport dans le transport total de marchandises pour vous,
aujourd'hui,
c'est quoi l'objectif?
Et on n'a pas d'objectif, mais si déjà on respecte ce qu'avait dit le Grenelle de l'environnement sous François Hollande qui était de 20 ou 25%, c'est déjà énorme. On n'a fait que reculer depuis l'ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir 25-30% déjà de marchandises.
Et pourquoi pas plus?
Mais nous, moi, je porte l'idée que quasiment 100% peuvent être transportés. C'est pas l'idée d'opposer le rail à la route. On aura toujours besoin des camions pour faire les derniers kilomètres. Ça, c'est une réalité. Mais on peut aujourd'hui avoir un plan de transport ferroviaire ambitieux qui permette de supprimer ces milliers de camions qui sont sur les routes avec des conditions sociales, et je le dis parce que c'est important, des chauffeurs routiers qui sont absolument scandaleuses.
Patrice Salini, qu'est-ce que l'économiste pense du calcul selon lequel 1 euro dans le fret ferroviaire, ça rapporterait 2 euros?
Depuis le début des années 73, début de mon activité dans le secteur, j'ai connu un nombre de plans astronomiques. Les deux derniers importants annoncés, c'était celui de Jean-Claude Guessot, qui nous annonçait 100 milliards de tonnes kilomètres par la SNCF. On devait acheter des milliers de locomotives. Le résultat, c'est quelques années après, on avait baissé de 40%. L'annonce suivante, ça a été 2007, Nicolas Sarkozy, qui nous annonce qu'on va augmenter d'un quart la part de marché. Le résultat, il est celui que vous connaissez. Je crois qu'il faut arrêter de dire, il suffit de mettre de l'argent. Il faut, encore une fois, construire les choses de manière concrète. Comment on fait concrètement pour avoir un système efficace, compétitif, comme je l'ai dit, à quelques critères. On ne peut pas se contenter de dire, il suffit de subventionner un système parce qu'il est plus vertueux. On sait très bien que demain matin, le transport routier, avec les automatismes d'un côté et la décarbonisation des moteurs, sera compétitif également sur le plan écologique. Donc si vous voulez sauver le chemin de fer, il faut réinventer le chemin de fer. Il faut le rendre...
Mais c'est une tarte à la crème, ça. Comment on réinvente le train?
C'est-à-dire tout simplement efficace.
Voilà, Karim Adeli, et vraiment, ce sera la conclusion, s'il vous plaît.
Alors. Oui, très rapidement. Tout d'abord, il y a un objectif européen avec la coalition que j'ai mis en œuvre. C'est d'ici 2030, partout en Europe, c'est d'atteindre 30% parce que les calculs sont atteignables. Maintenant, la question de reconvertir notamment la route, bien sûr qu'il faut le faire. Mais le but, c'est que réellement, le moyen de transport du train soit réellement important. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les externalités qu'il faut compter. Et ça... c'est quelque chose que le train, justement, nous, en termes d'investissement, nous permet de calculer. Lorsque vous allez sur la route, les externalités ne se comprennent pas. Merci. Et ensuite, je terminerai par là.
Vraiment deux mots, s'il vous plaît.
Oui, on ne peut pas parler de relance du fret ferroviaire s'il n'y a pas non plus une politique industrielle, parce que le matériel roulant est là. Ça tombe bien, on a des Alstom, des Siemens, allons-y réellement pour une vraie politique industrielle au niveau européen.
La relocalisation, la réindustrialisation, Alain Griset, ministre des PME, nous l'a promis hier dans le magazine du week-end. En tout cas, je vous remercie à tous les trois d'avoir été avec nous pour discuter du fret ferroviaire. Karima Delli, députée européenne Europe Écologie Les Verts, merci à vous. Patrice Salini, également économiste des transports, pour le dire vite. Et merci à vous, Thomas Porte, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable national du Parti communiste en charge du collectif des cheminots et ancien chef de circulation dans le rail. Merci beaucoup. Le magazine du week-end, c'est une émission préparée par Jules Crétois, Alia Tovin, Lucas Lazo et Léo Grillet. Réalisée ces trois semaines par Luc-Jean Reynaud, que je remercie. À la technique, c'était Jean-Guilain Meige.